France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Teresa Berganza. Je suis née à Madrid en 16 mars 1933. Je suis chanteuse classique.
Il en aura fallu de la patience pour apprendre à chanter, pour savoir aussi quel est le moment juste, Teresa Berganza, pour aborder un rôle et pas un autre.
Ça, c'est très important, parce que, bon, comme j'avais une certaine facilité pour chanter, j'allais dans les aiguilles, j'allais dans les bas et dans les cendres, on m'a offert des répertoires, et je disais toujours non. Mais je n'avais pas besoin de consulter à personne. Seulement, je disais, si je ne connaissais pas la partition, donnez-moi la partition. Comme je regardais la partition, non, je ne chantais pas ça. Une des choses plus tristes que j'ai eues, je suis là avec Maria Callas, qui me tenait dans ses jambes, qui était adorable. Et après qu'on a chanté Médéa, que j'ai chanté Médéa avec elle, j'avais 24 ans là. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai osé chanter avec la Cala, j'avais 24 ans. Et quand on a fini la Médéa, elle me dit, parce qu'elle m'appelait Teresina. Moi, on m'appelait toujours Teresina, Berganzina, comme j'étais petite, de terre. Berganzina, Teresina. Teresina, moi je vais faire la norma avec toi. Ah! J'ai dit, non, c'est pas possible, Maria. J'avais 24 ans, 25, et j'avais une voix de mezzo-soprano léger. Et la Norma, quelle est la mezzo-soprano de la Norma?
Adalgisa.
Adalgisa. Adalgisa, et une autre soprano. Et alors, je lui ai dit, non, je ne peux pas la chanter. Tu vas la chanter avec moi, tu vas... Non, je lui ai dit, avec la voix que tu as, chanter à côté de toi, la Norma, impossible. Et j'ai toujours eu ça... Je dis vraiment, peut-être c'était le moment formidable de faire une chose comme ça, mais j'étais sûre que c'était trop pour ma voix. Après quelques années, ça c'était les 57, 5 ans plus tard, je chantais à la Scala, elle était à la Scala, et on se trouvait dans le Bifi Scala, dans le restaurant de la Scala. Naturellement, je la vis, je l'embrassais, elle m'embrassait, et moi je lui ai dit, Maria, je crois que peut-être maintenant, je peux chanter Norma avec toi. Il m'a dit, c'est trop tard, parce que je ne peux plus la chanter. Et je pleure toujours quand je raconte ça, parce que pour elle, a dû être terrible, que je ne la chantais pas. Et pour moi, j'ai dit, pourquoi j'ai perdu Mais je la perdu parce que je devais la perdre. Parce que je pense que la vie est comme ça. Il ne faut pas dire, et pourquoi je ne fais pas ça, et pourquoi et ça devait être comme ça, c'est passé comme ça, ça devait être comme ça. Une femme formidable, un être humain. Avec moi, elle était, je ne sais pas, comme si j'étais... Elle avait toujours son chien avec elle. Et d'un côté, elle portait, amenait son chien et de l'autre, moi. Et quelquefois, je la disais, wow, Maria, où est-ce qu'on va? Elle m'amenait avec elle partout. ce dîner qu'on faisait à New York, que j'avais 24 ans, 25 ans, moi j'ouvrais mes yeux, et je regardais, je disais, où est-ce, j'étais, me disais, où est-ce que je suis? Avec tellement de gens qui ne font que te dire que tu es formidable, et peut-être que ce n'est pas vrai, parce que ça, je l'ai très clair déjà. Les adulations, ça c'était maman qui me l'a dit. Attention avec les adulations. Tu dois être humble toute ta vie. Et c'est vrai, même m'amener partout, je n'avais que cette robe que j'ai là, que c'était. Alors, on devait avoir une robe cotel. Je n'avais qu'une, que on me l'a fait, et m'a coûté un peu d'argent, que, comme ça. Et quand elle me disait, demain on a un cocktail chez les. Des gens très riches qui sont avec des maisons. Et tu vas venir avec moi. Je dis, non, Maria, parce que je n'ai que ce robe, je ne peux pas aller. Tu viens avec tout. Même avec la même robe, toujours. Alors, quand j'entends parler mal de Maria Callas, je deviens une bête. Et je mange les gens avec les ongles. Parce qu'elle était formidable. Seulement, on l'a fait beaucoup de mal. Et quand on l'a fait mal, naturellement, elle se défendait. Et je continue, je vous ai dit que je parle trop, hein.
Allez-y, Teresa Berganza.
Mais ça, c'est des choses très, très belles. Le jour de la générale de Medea à Dallas, je chantais mon air et je finissais appuyé sur l'épaule de Maria et les dents regardant le public. Et on applaudissait. Et moi, vous pouvez imaginer, c'est pas que j'ai tremblé, c'est que je ne me tenais pas debout. C'est maintenant que je vais tomber, parce que c'est pas possible que moi, je reçois des applaudissements comme ça. Alors elle me dit, tu te tournes à recevoir les applaudissements qui sont pour toi. Et je dis, non, devant toi, non. Tu te tournes, non, je ne me tourne pas. Elle m'a pris par les épaules, elle m'a mis devant elle pour prendre les applaudissements. Ça, personne l'a fait dans toute ma carrière. Maria Callas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Maria Callas? avec une fille de 24 ans, une espagnolita qui est arrivée comme ça à chanter avec elle, qui était déjà les monstres sacrés de l'opéra. C'était une femme formidable. Je crois qu'elle n'était pas heureuse. Tout ce que je parle de l'amour de mes parents, elle n'a pas eu ça. Une chanteuse, on a une vie trop libre. C'est ma maman. Je crois qu'elle pensait que j'allais faire je ne sais pas quoi. En chantant. Quand elle m'a vu avec le dictionnaire sur le ventre, elle, quelle folie. Et pour chanter, tu dois faire ça, ma fille. Et c'est vrai.
Et à la fin des années 50, Teresa Berganza, quand vous commencez comme ça à chanter avec Lola Rodriguez Aragon, vous prenez ses cours de chant, on est encore sous Franco. À quoi ressemble Madrid? Vous parlez des grandes chanteuses, Victoria de Los Angeles, je ne sais pas, est-ce que...
Victoria de Los Angeles.
Il y avait une vie musicale
Non, pas beaucoup.
Qu'est-ce qui
pas
se beaucoup. Passait à Madrid? Est-ce que c'était
il
la
y
radio
avait, il y avait une orchestre qui jouait tous les vendredis, samedi, dimanche, l'Orchestre National s'appelle, qu'elle continue, et on amenait des solistes. Et je me souviens d'avoir entendu, je n'avais pas l'argent pour me payer le concert, mais je me suis fait amie d'un... comment se llaman los acomodadores?
D'un ouvreur.
Oui, un monsieur qui était beaucoup... Mais j'étais sympa pour lui. Alors il me disait, tu attends là. Et quand je te trouvais un endroit, tu vas. Et comme ça, j'allais au concert. Alors, est venue Elisabeth Schwarzkopf. Tous les grands sont venus.
Et ça, vous en avez des émotions? Vous en gardez des souvenirs?
Je me fais entendre par Elisabeth Schwarzkopf. Je l'adorais et je l'adore. Mais elle m'a dit que je ne devais pas chanter. Parce que ma voix, c'était pas trop intéressante. Et j'ai dit, merci beaucoup, madame, mais je vais chanter. Je ne sais pas comment, mais je vais chanter. Et trois ans plus tard, j'ai chanté avec elle à Londres, les Noces de Figaro, con Giulini. Il était adorable avec moi. Je ne l'ai pas dit. Vous vous souvenez que vous m'avez dit que non? Parce que j'ai chanté Cherubino et j'ai eu un énorme succès, comme toujours avec les Cherubino. Et j'attendais mon premier homme de son enfant. J'avais déjà une jolie robe, mais elle avait un châle de Zibeline. Il faisait froid, je disais, j'ai froid. Il m'a donné son châle de Zibeline avec ma robe de soie de... Avec mon ventre, j'étais déjà de 7 mois comme ça. Ça, c'était l'histoire avec Elisabeth Schwarzkopf. C'est pas joli. Elle m'a dit que non, que de ne pas chanter. Non, on ne sait jamais. Parce qu'on ne sait jamais comment une artiste peut aller en avant ou ne peut pas. On ne sait pas. C'est la même chose avec un violoncelliste, un violoniste. On ne sait pas. Quand on commence, peut-être on ne peut pas, mais après, on va. Et moi, 17 ans comme la Micaela de Carmen. 17 ans. J'avais 17 ans et j'ai chanté déjà des petites choses, des petits récitals. Et j'ai chanté un récital à Madrid, en l'Athénée. Et il y a eu le congrès international de jeunesse musicale. Ils sont venus tous les présidents de presque de tout le monde. Et j'ai fait le récital avec de la musique espagnole, parce que je devais montrer qu'est-ce que c'est la musique espagnole. Alors, de tous les Falla, les Guridi, les... Et quand j'ai fini le concert, ils sont venus m'inviter à aller en France, en Allemagne, en Angleterre. Et tout d'un coup, c'est pour ça que la vie est ce qu'elle doit être. Et on ne sait jamais qu'est-ce qu'elle va être ou qu'est-ce qu'elle a été, elle a été. Qu'est-ce qu'elle va être, on ne sait pas. Et alors, une dame très élégante, avec des perles formidables, blonde, élégante, italienne. C'était la baronessa Lanni della Quara. E mi dice, signorina, lei vorrebbe venire a fare una tournée di recital per le jeunesse musicale in Italia? Je dis, oui, parce que pour moi, l'Italie, c'était le pays des chanteurs. C'était la langue des chanteurs. Et je suis allée en Italie faire ce tour, 12 récitals. Et j'ai fait un récital en théâtre à Milan. Et quand j'ai fini, arrive une dame italienne, il me dit, signorina Berganza, lei vorrebbe brava, stupenda, tutte ces choses-là, est-ce que vous voulez chanter à la Scala et le conte Ori de Rossini? Et je dis, je ne sais pas. Je lui ai dit tout de suite, oui, à la Scala, oui. Non, vous devez me donner la partition. Et si je peux la chanter, je la chanterai. La partition était formidable et j'ai fait mon début à la Scala. Comme ça. Pour ça, quand je vois des carrières tellement difficiles, au moins je chantais très bien, ou j'ai eu une grande chance dans la vie.
Grands entretiens de Teresa Berganza, France Musique.
Moi, je n'ai fait aucun effort. Je n'ai fait pas, même pas des auditions. Si, j'ai fait une audition pour Dissourger. Mon professeur, Lola, m'a dit, tu sais, je connais un monsieur Dissourger qui a un festival à Aix-en-Provence. Et il cherche une mezzo-soprano pour Darabella. Et je l'ai envoyé déjà une, mais il n'a pas aimé. Alors, elle me dit, de toute façon, tu sais, si tu ne traverses pas les Pyrénées, tu ne feras rien dans notre pays. Alors, va à Paris, il va t'entendre, et tu vas commencer une carrière. J'ai pris mon avion, Monsieur Dissourger m'attendait dans les bars du théâtre, en face. J'ai envie de pleurer tout le temps, parce que je suis pleine d'émotions aujourd'hui. Et il était là. Et alors on est passé dans le théâtre. Qu'est-ce que vous chantez? La Dorabella. Oui, le dessert de Dorabella. Oui. Est-ce que vous pouvez chanter encore Cherubino? Oui. Est-ce que vous pouvez chanter Rossini? Oui. Et je ne sais chanter, ne me souviens pas. Barbiero Cenerentola. Et comme j'ai fini, me dit, vous voulez chanter cet été avec nous, così fan tutte à Aix? Qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux que pleurer d'émotion. Et de dire que c'est arrivé dans ma vie, c'est arrivé comme ça. Michel de Souza que j'adorais. J'adorais parce que après j'ai chanté toutes les années là.
La première fois que nous sommes rentrés dans cette cour avec Henri Lambert, c'était une cour toute nue, avec des murs assez lépreux. Il y avait une fontaine là, qui ne coulait pas naturellement. Et puis il y avait, dans l'autre côté de la cour, un grand arbre qui avait l'air d'une main qui s'élevait vers le ciel, comme une main qui implorait. Nous nous sommes dit, je crois que quand même cette cour pourrait être le lieu de la musique. Mais il fallait peut-être penser un petit peu à l'acoustique. Alors, je suis allé au milieu de la cour. Ici, à cet emplacement exact, j'ai fait un essai d'acoustique. Et comme l'acoustique nous satisfaisait, nous nous sommes dit, ben, c'est là. C'est là, il n'y a pas d'autre lieu, il ne faut pas chercher. C'est là qu'il faut faire ses concerts et le festival Mozart. Ce que Mozart attendait. Voilà. Alors, je regarde Henri. Nous étions en transe et tellement heureux que nous sommes allés en courant aux deux garçons où la comtesse Pastret nous attendait.
Et qu'est-ce que c'était Aix?
Aix en 57, 58.
Et qu'est-ce que c'était Aix? Les productions qu'on a faites, les chanteurs, c'était la Teresa Schirandal, la Rita Streich, Panerai. Tous les grands, et tous les grands, c'était Giulini, et tous les grands. Et j'étais là comme perdu, un peu parce qu'ils étaient plus grands que moi, mais je me trouvais toujours très bien entre... Je me trouvais toujours plus mieux avec les grands qu'avec les médiocres. De les médiocres, on n'apprend rien. Non, je voulais apprendre des grands. Et dans tout, si j'allais dans un dîner, et il y avait un docteur que je savais, j'adorais entendre le docteur qui me racontait pourquoi on avait une pulmonie, par exemple. Et dans la musique, c'est la même chose. Et dans tout. Parce que vraiment, je crois que la chose la plus belle pour les artistes, pour les musiciens, sont les répétitions. Là où est-ce que... On fait les personnages, on les comprend. On a, avec l'autre chanteur, la réponse, le regard. C'est le meilleur moment, la répétition.
C'est le moment de travail.
C'est le travail. Moi, quelquefois, quand les gens me disent « Mais toi, comment est-ce que tu as fait ?» Je dis « Yo, travailler. » Et après, travailler.
Sourire, est-ce que c'est pas le secret d'une voix que vous aurez donné aussi, Lola, de sourire quand on chante, la bouche et le
oui,
sourire.
Mais ça c'est mon professeur qui disait, et vous voyez le sourire qu'elle a. Elle disait toujours, pour commencer à chanter, il faut penser dans n'importe quelle voyelle. Il faut avoir un sourire. Et c'est pour ça que j'ai ce Bouddha-là, qu'il m'a dit, c'est un sourire qui n'arrive pas à être un sourire. C'est le sourire que quelquefois on voit dans le Bouddha. Et quand vous savez ça, vous dites « i ». Et de là, vous commencez à chanter « i » dans les antres. Et après, vous allez ja avec les autres voyelles, dans le haut ou dans le bas. Mais toujours le sourire... Et ça. Et je ne peux pas m'enlever le sourire. Mais elle disait non, comme la Mona Lisa, non. Parce qu'elle est très forcée. Il faut sourire comme Bouddha. Si, si. Elle était incroyable. Incroyable, vraiment. Je le dois tout comme chanteuse, tout.
Teresa Berganza et Placido Domingo referment ce troisième volet des grands entretiens avec Teresa Berganza par un duo comique de José Serrano. Réalisation Marie Groux, prise de son Marcos Daras, mixage Éric Boisset, attaché de production Marion Guillemet. Rendez-vous demain, 13h, pour le quatrième épisode de ce portrait. Une série disponible en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.